Le matin, au www.rockkick.com. On s'attend fort.
De 9h à 1h, c'est Wake Up. Wake Up.
Avec Ismaël Trépanier.
Ismaël Trépanier.
Et Jonathan Bouchard.
Jonathan Bouchard.
Bienvenue à Jeunesse J'écoute.
Que tu réponds?
Que je parle?
De Jeunesse J'écoute.
Jeunesse J'écoute, effectivement, c'est là que j'appelle, madame.
Je pense que tu as une mauvaise erreur parce que c'est pas une ligne pour les adultes.
C'est pas pour les adultes?
Non.
OK.
OK, salut.
Madame, où est-ce que j'appelle? J'avais besoin de parler, madame.
À partir d'une heure, les gars de Hard Sports prennent les commandes. Éric Veilleux et Christian Dallaire vous offrent via leurs collaborateurs invités le seul show de sport controversé à Québec.
Justement, je voulais en revenir encore avec Steve Bégin. Est-ce que ça pourrait faire un meilleur capitaine que Sakou Koivu?
S'il y a de la graine de capitaine, c'est sûr. C'est un leader, c'est un gars qui va aller au front à chaque soir, qui va se donner pour son équipe à 100%.
Puis la musique. Rien à voir avec les autres. Look out. Rockkick.com.
Wake up! From 9 to 1, you're listening to Wake Up with Ismaël Trépanier.
Wake up!
Midi 18 minutes, vous êtes dans le show Wake Up, Ismaël Trépanier, John Bouchard pour les news et Christian Dallaire pour les sports. 19 mai 2006, c'est avec vous jusqu'à 13h, 19h pour vous les Français. J'espère que tout le monde est sur le qui-vive parce qu'on va discuter dans moins de deux, je crois, si je me souviens bien de son prénom et nom, Anne-Marie Delcambre. Bonjour Anne-Marie, ça va bien?
Bonjour Ismaël, mais on n'est pas encore, il n'est pas encore 19h, hein. Il est 18h20.
Oui, je sais, mais je fais simplement savoir qu'on est avec eux jusqu'à compter 19h.
Ah oui, d'accord, pardon.
Il n'y a pas de problème. Bon, comment ça s'est passé votre semaine?
Ça va, toujours énervé parce que j'arrive pas à convaincre les gens qu'on nous raconte à longueur de journée des mensonges, d'ailleurs, sur l'islam, mais à la fin de l'émission, je pourrais dire aussi sur d'autres religions. Hein.
Oui, tout à fait.
Par exemple, sur l'islam, depuis le 11 septembre, aux États-Unis, tout le monde répète « Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est pas cela, l'islam. » Sous-entendu, c'est pas la violence, l'islam, c'est pas les bombes, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tolérance. Et alors, je reviens parce que c'est vraiment, ils persistent dans leurs mensonges, ils vont jusqu'à mentir sur les mots arabes. Hein. Vous savez que salam, ils vous disent, mais voyons l'islam, ça vient, le mot islam vient de salam. Moi, en tant que professeur d'arabe, je suis au bord de l'évanouissement. Parce que salam, c'est la paix.
Okay.
Mais salam, vous savez, vous dites ça, assalam alaykoum.
C'est ça.
Ça veut dire salut à toi. D'ailleurs, vous avez l'expression française, faire des salam alek. Vous savez, le mot salam alek, S-A-L-A-M-A-L-E-C-S, faire des salam alek, ça veut dire avoir une politesse exagérée. C'est-à-dire essayer d'être trop poli, si je puis dire. Or, le mot islam, ça vient pas du tout, ça vient de la quatrième forme, aslama, qui veut dire, en quelque sorte, livrer, trahir et aussi convertir. C'est comme si vous disiez, par exemple, vous avez mangé, et puis vous avez aussi le mot démanger, comme vous avez le mot foncer, le mot défoncer, battre, débattre, c'est-à-dire qu'on prend un noyau, et ils se disent, puisque les Français connaissent pas l'arabe, on y va. Et c'est complètement stupide, parce que la racine, c'est regardez, en tant qu'arabe, c'est salima. Salima, ça veut dire S-L-M, salima, être sain et sauf. Alors, dans la même racine, vous avez salam, la paix.
Okay.
Vous avez salim, sain et sauf. Et vous avez sulam, l'échelle, l'escalier. Là, quand on va passer à une forme augmentée, la quatrième, ça veut dire faire. Je prends un exemple très simple, hein, en tant que cours d'arabe. Dakhala, dakhala. Répétez-le, dakhala.
Dakhala.
Excellent, ça veut dire entrer.
Oui, j'ai une facilité quand même. Hein.
Voilà. Et atrala, ça veut dire faire entrer. C'est pas la même chose, entrer ou faire entrer. Par exemple, salam, la racine salima, c'est être sain et sauf, et tandis que aslama, ça veut dire soumettre, ça veut dire aslama. Livrer, ça veut dire faire livrer quelqu'un, trahir quelqu'un.
Okay.
Donc c'est pas la même chose. Et également, je vous dis pas les mensonges sur le djihad, le fameux djihad. Parce que le fameux djihad, on vous dit, mais ça n'a jamais voulu dire la guerre sainte, c'est le combat contre soi-même. Or, ce que j'ai fait, j'ai pris un dictionnaire fantastique, malheureusement il est uniquement en arabe, il s'appelle le de Mohamed Fouad Abdelbaki. C'est une sorte de Fihrist, F-H-I-R-I-S-T,
okay.
Fihrist, c'est-à-dire c'est une sorte de, comment dirais-je, dictionnaire.
Oui.
Et vous trouvez tous les versets. Par exemple, si vous avez un mot, le mot djihad, vous trouvez tous les versets qui parlent du djihad. Et là, j'ai vu effectivement qu'il y a des versets qui disent que le djihad, c'est la lutte contre... C'est-à-dire, en fin de compte, le mot djihad, si on veut vraiment le traduire, ça serait lutter, s'efforcer de militer. Vous voyez ? Donc, ça peut être militer avec les armes, et ça peut être militer, comment dirais-je, dans le militantisme, hein, en essayant d'attirer à soi quelqu'un pour qu'il se convertisse. Tandis que le mot, par exemple, qatala, qatala, combattre, qui donne qital, là, c'est vraiment tuer, c'est combattre pour tuer. Et comme il se base sur le fait que les gens ne connaissent pas l'arabe, les deux existent dans le Coran. Mais c'est vrai que le djihad, on peut faire le djihad pour convertir quelqu'un. Tandis que quand on fait le qital, c'est vraiment combattre pour avoir sa peau, hein, pour le tuer. Alors j'ai pris toutes les occurrences, et alors là, c'est évident qu'il nous emmène en bateau. Parce que quand on dit, par exemple, je vous donne un exemple, « Oh, mais c'est très, très, très doux, c'est doux, regardez. » Et alors je pose la question, vous dites que c'est doux. Par exemple, c'est pas doux quand on a par exemple des versets comme, je vous en cite quelques-uns au hasard, parce que je veux pas... par exemple, nous avons enjoint... Bon, qu'est-ce qu'il y a encore très intéressant? Ah oui, par exemple,
oui.
dans la sourate 8, verset 65, il est dit ceci. « Ô prophète, incite les croyants au combat. » Et au combat, là, c'est « qu'est-elle ?» C'est-à-dire, c'est vraiment pour tuer, hein, c'est pas du tout...
Ça, okay.
S'il se trouve parmi vous 20
oui.
patients, ils vaincront 200. S'il se trouve 20 patients, c'est-à-dire des gens qui endurent bien les choses, ils en vaincront 200.
Okay.
S'il s'en trouve 100, ils en vaincront 1000 mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Et il y a des tas de versets qui vont... Il y a même un verset de la sourate 2, le verset 217, qui dit ceci. On s'adresse au prophète. Il te questionne sur le mois sacré, parce que pendant le mois sacré, il y avait eu une mort d'homme, et ça ne se faisait pas dans la loi du désert, de tuer quelqu'un. Eh bien, le fait, la tentation d'abjurer, la discorde, est plus grave que le meurtre, al-qatl. Al-fitna akbar min al-qatl. Mais vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Oui, bien sûr, vous sortez comme ça quelques versets de leur contexte, mais c'est pas juste, regardez, vous prenez comme ça, on peut faire ça même pour l'évangile. Alors, ça m'a énervé, j'ai dit, bon, vous dites que je sors certains versets de leur contexte, quand j'ai par exemple la sourate 4, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, et ceux qui luttent, corps et bien, justement, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minin wal-mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Et on continue. Dieu préfère ceux qui luttent à ceux qui restent bien le cul par terre. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin darajatan. Donc, mais il y a mieux. Vous dites, qu'est-ce que vous pensez, même si je regarde les hadiths, qu'est-ce que vous pensez de ce hadith qui dit ceci? Là, ça va vous faire sursauter.
Allez-y.
Le jour de la résurrection, chaque blessure reçue par un musulman dans le sentier de Dieu sera comme elle était au moment de l'attaque. Elle saignera. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Tu sais, le musc, c'est un parfum.
Oui, c'est ça.
Mais dites-moi, quand vous savez que le prophète, qui est un beau modèle, a écrit ça, que le jour de la résurrection, c'est-à-dire après la mort, quand vous serez jugé, chaque blessure reçue par un musulman dans le sentier de Dieu, mais bonsoir, la blessure, elle n'a pas été faite en cueillant des pâquerettes. Chaque blessure
non, c'est ça.
Reçue par un musulman dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire pour la cause de Dieu, fisabilillah, sera comme elle était au moment de l'attaque. Elle saignera. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Vous imaginez? Alors
oui.
Vous allez me dire,
ouais, non, oui,
mais
oui.
C'est pas encore assez, on s'en fiche.
Ben, pas alors, du tout, franchement, c'est des idées de grandeur complètement tarées.
Mais attendez, si vous regardez les hadiths, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé dans le site www.al-islam.com et j'ai vu que pour le mot djihad, 1424 réponses, Et vous avez, par exemple, la guerre est un stratagème. Vous avez ensuite celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles. C'est un hadith de muslim. Et j'arrive à mon scoop. Dans le Coran lui-même, vous avez une sourate qui est la sourate 8 intitulée, devinez quoi ? Le butin. C'est quoi le butin ?
Oui, exemple, si je vous disais de pot of gold, Lucky Charm.
Ah, le butin, c'est quand c'est les dépouilles de guerre, c'est-à-dire bon. Quand vous jetez sur quelqu'un et que vous lui prenez, par exemple, je sais pas, c'est ce qu'ont fait les gens des banlieues, ouais. Quand ils ont dévalisé en prenant les mobiles. Vous voyez, si quelqu'un vient dans votre radio et on prend tout et on... Ben, c'est ça, c'est les prises de guerre. Il y a une sourate intitulée Al-Anfal, c'est-à-dire c'est la sourate qui dit tout ce que vous aurez pris au moment de la razzia, vous connaissez le mot razzia au moment du combat armé, eh bien, voilà, voilà comment ça commence, le verset 1. Les croyants t'interrogent au sujet du butin, répond, dit, le butin est à Allah et à son messager. Yas'alunaka anil anfal, kulil anfal lillahi wa rasuli. Alors, vous vous rendez compte que vous avez, et ensuite, la sourate 8 continue, combattez-les, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas, les mécréants, jusqu'à ce que ne subsiste plus de tentation d'abjurer, la fitna, et que le culte en entier soit rendu à Allah. Et là, c'est bien combattre pour tuer, parce que c'est le verbe qatala, wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu din kulluhu lillah. Et alors après, je vous dis pas, verset 55, sourate 8, les pires bêtes, les bêtes comme des gros veaux, les pires bêtes auprès d'Allah, sont ceux qui ont été infidèles et ne croient pas. Inna sharra dawab indallah alladhina kafaru fahum la yu'minun. Alors, et il continue après la sourate 8, verset 22, les pires bêtes auprès d'Allah sont les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Non seulement ce sont des bêtes, comme des grosses bêtes, des bêtes lourdes, hein, comme des ours, des moutons, des bêtes de somme, hein, des bêtes de somme en réalité. Inna sharrad dawab, indallah, assum, wal bukm, alladina la yaqilun. Et oui, et le Coran parle tellement bien de butin qu'il y a un ouvrage, les Marazi d'Al-Waqidi, Al-Marazi, c'est-à-dire les campagnes militaires du prophète. Alors, je me suis reporté à cet ouvrage, mais il n'y a pas besoin de se reporter, hein. Regardez ce qui se passe, il est dit. Écoutez bien ce qui est dit. Celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles. C'est-à-dire, vous imaginez, vous tuez quelqu'un en combattant, parce qu'il est considéré comme infidèle, et bien vous avez droit à tout ce qu'il possède, à ses dépouilles. Lors de la bataille de Badr, parce que c'est une bataille, il y avait deux jeunes gens et qui avaient décidé de tuer un ennemi du prophète, Abu Jahl, J-A-H-L. Alors ils voient leur oncle, et ce sont deux voyous, leur oncle d'ailleurs quand ils les voient arriver, ils se disent, tiens pourquoi ils sont là ceux-là. Mon oncle, est-ce que tu connais Abu Jahl ? Oui, fils de mon frère, lui répond l'oncle, et que lui veux-tu ? Ah, on m'a dit qu'il avait injurié l'envoyé d'Allah, et par Dieu je vais le tuer. Alors ils aperçoivent Abu Jahl, eh bien dit l'oncle, voilà l'homme, celui que vous cherchez. Alors ils volent vers lui, vous savez, tellement ils courent vite, et ils le jettent par terre en le frappant avec leur sabre. Puis ensuite ils vont voir le prophète et ils disent, voilà ce qu'on a fait, on a tué pour toi. Lequel de vous l'a tué ? Demanda le prophète. C'est moi, répondirent-ils tous les deux. Avez-vous essuyé vos sabres ? Reprit le prophète. Ils dirent que non. Alors Mahomet regarda leurs sabres, vous savez, leur épée, et leur dit, ouais. Vous l'avez tué tous les deux. Mais ces dépouilles appartiennent à Mu'adh ibn Amr, etc., Al-Jamour. En effet, les deux hommes, il y en a un qui s'appelait Mu'adh ibn Amr, etc., ibn Al-Jamour, et l'autre s'appelait Mu'adh ibn Afra. Eh bien, le sabre de Mu'adh, etc., ibn Amr, ibn Jamour, portait les traces du contenu de l'abdomen du mec, attestant que c'était lui qui avait achevé le meurtre, tandis que l'autre n'avait fait que le blesser. Et vous me dites que c'est paix et tolérance, autrement dit, les deux voyous qui ont tué. Alors là, je dis, c'est absolument incroyable. Mais attendez, ça ne suffit pas au prophète, la mort de son ennemi, la mort d'Abu Jahl. Lorsque le prophète, il a ordonné, il a dit, vous pouvez pas rechercher quand même Abu Jahl parmi les tués, pour être bien sûr, enfin, je serais vraiment heureux quand je le verrais. Il y avait un petit bonhomme, un petit pâtre, un petit berger, Abdallah ibn Mas'oud, qui n'avait pas d'arme, mais il avait seulement un couteau. Il a cherché, vous savez, parmi les morts, parmi les blessés, et il l'a retrouvé. Il avait été blessé à Boujal par les deux totos, là, mais il était sur le point de mourir. Alors, Ibn Mas'oud, là, le berger, le reconnut, et comme il n'avait pas d'arme de mort, il a pris son couteau, il lui tranchait la tête et l'apportait à l'envoyé de Dieu. Et il lui dit, voici, envoyé de Dieu, la tête d'Abu Jahl, et l'autre est un prophète. C'est ça qui nous choque. Si c'est un chef militaire, si c'est, vous voyez, c'est pas grave. Mais c'est quelqu'un qui est un beau modèle. Je veux pas juger le prophète, il a fait ce qu'il a voulu, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il est le modèle pour plus d'un milliard de musulmans. Et il est écrit, parce que ça je l'ai pas trouvé, et j'ai trouvé dans les textes musulmans, celui qui tue un ennemi a droit à ses dépouilles.
Madame Delcambre, oui. Est-ce que je peux vous poser des questions? Parce qu'il nous,
il nous en vient via
live@hockey.com. Il y a Rico qui dit ici, pensez-vous, dans le fond, que les dirigeants iraniens seraient susceptibles de déclencher le feu nucléaire, quitte à sacrifier leur population?
Je vais vous dire, ce qui me fait peur et pourquoi je lis énormément les textes violents. Ce qui me fait peur, c'est que c'est évident que Malik Chebel ou autres, eux, je ne sais même pas s'ils connaissent les textes,
c'est ça, mais à les écouter parler, ils ont l'air à être en connaissance de cause parce qu'ils ont essayé
Le problème, c'est que ceux qui, vous voyez, c'est-à-dire que quand vous regardez des gens comme Ben Laden, des gens qui sont comme Ben Laden, quand ils ont à la tête, à l'esprit, le sachant par cœur, en arabe, etc., dans le Coran, dans les hadiths, qu'ils voient qu'il y a le butin, qu'ils voient que le prophète a dit, toutes les dépouilles appartiennent à celui qui les prend, etc., pour eux, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de vivant, c'est-à-dire c'est pour eux le beau modèle qui a dit cela, le beau modèle qui a fait cela, le beau modèle qui a agi comme cela. Et pour eux, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez, on dirait parole d'évangile pour les chrétiens, mais eux, c'est parole de Coran, c'est parole de Dieu lui-même. Alors, quand vous êtes sûr pour avoir le paradis, quand vous avez des choses aussi énormes que celui qui meurt en ayant eu le sang qui s'écoule, etc., et que il y a une excellente illustration sur Liberty Vox, c'est fait par Stabilo, c'est-à-dire qu'elle montre les blessures qui sentent le muscle. Ben, nous, on dit c'est délirant. Et tous ceux qui m'écoutent disent c'est délirant. Mais ce n'est pas délirant pour celui qui croit aller regarder, par exemple, ce qu'a fait l'UOIF pour l'enseignement aux petits. On voit que l'islam est vraiment... comment dirais-je, il y a la notion de combat qui est présente partout. C'est ça. Alors regardez pourquoi ça me fait vraiment peur, pour répondre à Rico. C'est que, vous voyez, on dit c'est pas cela l'islam, c'est pas ça, surtout les catholiques disent mais c'est pas cela, mais attention, vous excitez la haine. Et je vais vous dire une chose, il y a Batior qui a écrit beaucoup justement pour essayer de montrer qu'il y avait vraiment un islam intolérant. Eh bien figurez-vous qu'il y a une revue française qui s'appelle La Vie des Idées. Et Monsieur Wojtek Kalinowski, qui est le rédacteur en chef de La Vie des Idées, dans le numéro 12 de mai 2006, donc c'est très proche, hein, il attaque Batior et il dit ceci. Elle est comme Oriana Fallaci. Elle fait des prophéties dignes de Cassandre. Pensez donc, un islam lancé à la conquête de l'Europe. L'Europe en passe de se transformer en une Arabie. C'est pas possible, les non-musulmans qui formeraient des minorités à peine tolérées. Parce que Monsieur Wojtek Kalinowski, eh bien, il ne peut pas imaginer que des textes comme ça soient considérés comme des textes spirituels par les musulmans. Moi, je suis allée sur les différents sites, et vous savez, les musulmans eux-mêmes disent « Mais qu'est-ce que c'est que c'est anti-islam qui nous attaque? C'est pas cela, l'islam. L'islam, c'est un message de paix. L'islam, c'est la douceur. L'islam, c'est notre prophète qui n'a pas dormi pour ne pas réveiller, comment dirais-je, notre prophète qui n'a pas hésité parce qu'il y avait une chatte qui s'était endormie sur sa manche, qui a préféré qu'on coupe. » C'est-à-dire que le problème, c'est que eux, ils ont un islam, vous voyez, c'est-à-dire à leur manière, mais ils ne connaissent pas les textes. Or, ces textes-là, ils sont connus par Ben Laden et les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils connaissent tout ce qui a été écrit sur l'islam. Or, ce qui s'est passé, c'est que les versets révélés en dernier ont abrogé les, certains versets révélés en premier. Il y avait des versets, par exemple, comme Sourate Al-Kafiroun, la Sourate des mécréants, où il est dit « Lakum dinukum waliyadini », c'est-à-dire « Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne ». Et puis, plus le prophète a fait le combat, plus il a été vainqueur, et il est devenu de plus en plus intransigeant. Ce qui fait que les versets les plus durs ont abrogé les versets les plus doux. Et ces imbéciles qui ne connaissent rien ne veulent pas voir que les gens qui connaissent les textes sont extrêmement dangereux pour le non-musulman, parce que à partir du moment où je l'ai dit, où le Coran est la parole de Dieu intouchable, éternelle, et qu'on ne peut pas en enlever un mot, et que le prophète est le beau modèle, eh bien, ils peuvent faire n'importe quoi. Et je vais vous montrer comment ils mentent pour quelque chose qui va vous étonner. Vous savez, il y a quelqu'un qui est comme Malik Chebel et qui s'appelle Meddeb. Meddeb, c'est quelqu'un d'assez connu qui est à France Culture.
Ok.
France Culture, oui. Il a une émission. Et il avait fait une émission de télévision. Et il a, devant tout le monde, il y avait lui, et puis il y avait le représentant des dits islamistes, c'est-à-dire Fouad Alaoui. Et Mohamed Deb a sorti un papier, et il a dit, regardez l'islam, ce qu'est le vrai islam. Et il s'est mis à lire, parce que c'est un assez beau mec, Mohamed Deb, avec ses beaux yeux bleus. Là,
ah oui.
Vous voyez, tout le monde l'a regardé. Et il a dit, regardez ce qu'est écrit Ibn Arabi, qui est un mystique andalou. Il dit, mon cœur est capable de devenir toute forme, cloître du moine chrétien, temple des idoles, prairie des gazelles, pierre noire des pèlerins, table de la loi mosaïque, Coran, autrement dit, amour est mon credo et ma foi. Et Ibn Arabi, c'est effectivement un mystique andalou, 1165-1240, qui s'est installé en 1225 à Damas. Et il y avait Fouad Alaoui qui écoutait ça. Et dans ses yeux, parce que lui, évidemment, la mystique, le vrai musulman croyant, ne n'aime pas du tout les mystiques, il pense que ce sont des hérétiques. Il écoutait Meddeb lire ça, et vous savez, dans ses yeux, parce qu'il est très intelligent, il se disait, oh, les pauvres contes chrétiens, et on est en train de leur servir la sauce, leur sauce préférée, la douceur, le côté, voilà, c'est-à-dire Ibn Arabi a dit, mais vous savez, l'islam, c'est tout, c'est aussi bien le judaïsme, c'est le christianisme, c'est le zoroastrisme, c'est tout. Et s'il avait été sincère, Fouad Alaoui, il aurait dit, Meddeb, tu es en train de nous présenter un hérétique comme modèle. Mais il s'est tu. Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, et vous, monsieur Alaoui, vous êtes d'accord? Vous trouvez que c'est bien? Il a dit, c'est un beau texte. Autrement dit, je vous assure, je suis persuadé qu'il est rentré chez lui, ils sont pliés en deux de rire. Je vous jure, ils doivent se dire, mais ils sont cons les Occidentaux, mais ils sont cons, tellement ils aiment la douceur. Et vous savez, ils osent de plus en plus. Par exemple, il y a un livre de Tarif Khalidi, donc Tarif Khalidi, chez Albin Michel 2003, Un musulman nommé Jésus.
Oh.
Également, mais je vous assure, c'est un livre qui est apparu chez Albin Michel. On parle de Marie, la musulmane. Mais pourquoi ils s'arrêteraient, puisque les catholiques sont les plus bêtes? Et ils sont là, ils ne disent rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les musulmans ont décidé de faire un djihad par la plume, puisque, vous savez comment on peut traduire djihad? Militantisme. Alors que Qital, c'est le combat pour tuer.
Militantisme?
Militantisme. C'est-à-dire, c'est le fait de s'efforcer, de lutter, mais pour, en quelque sorte, soumettre les gens, soit leur faisant payer les impôts s'ils ne veulent pas devenir musulmans, soit carrément les pousser à la conversion.
Okay.
Or, ce qui se passe pour les musulmans, ils ont bien compris que l'Occident voulait un peu un Mahomet comme Jésus. Et alors, ils font, je vous assure qu'ils sont loin d'être bêtes, beaucoup plus formés et intelligents que nous ne le sommes. Parce que eux, ils connaissent à la fois notre culture et la leur. Et ils disent, ils veulent des trucs. Ça me fait penser à un ami qui adorait la nourriture chinoise. Il est allé en Chine. Il a mangé la vraie nourriture.
Voilà.
Il a vomi pendant 3 jours. Je vous jure, il était devenu... Eh bien, le problème, ils se disent, ils veulent de la douceur, on va leur en faire. On va présenter une sorte de mystique pour les chats, c'est-à-dire une sorte de bouillie, un peu comme Jésus, je vous assure. C'est inimaginable. Et les chrétiens se laissent faire. Alors, quand je pense qu'ils portent plainte, ils se plaignent parce qu'on attaque Da Vinci Code, etc., mais je dis, mais pourquoi vous êtes si méchant à l'égard de ce romancier, après tout, et pourquoi vous êtes si con devant le danger que représente l'islam? Les gens qui osent associer comment dirais-je, des personnes à Dieu, Dieu qui a un fils pour un musulman, c'est l'horreur de l'horreur, c'est le péché qui ne sera jamais pardonné. Les musulmans disent « Lam yalid wa lam yulad », c'est dans la sourate Al-Ikhlas, c'est-à-dire Dieu est un, et c'est impossible de dire que Jésus est fils de Dieu. Pour eux, c'est dire ça, c'est-à-dire que ça mérite d'avoir un coup de, comment dirais-je, un coup d'épée directement qui vous transperce le cœur.
J'ai des, Madame Delcambre, oui, j'ai encore une autre question ici.
Je vous en prie.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur le fitna exactement? Fitna. Fitna.
Ah, fitna. Ah, c'est très bonne question. La fitna, c'est la discorde. C'est à la fois la séduction et la sédition. Vous voyez, c'est-à-dire le fait de une sorte de rupture qui s'opère dans la communauté, soit parce que les gens retournent en arrière et puis redeviennent polythéistes comme ils étaient avant, soit parce que ils décident de devenir hérétiques. De toute façon, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire, c'est la fitna, c'est la discorde, c'est la grande discorde, c'est la. Et c'est vrai que c'est ce qui est dit dans le Coran. C'est préférable, rendez compte ce qui est dit, le meurtre est préférable à la fitna. C'est ce que je viens de lire. Wal fitnatu akbar min al qatli. C'est-à-dire, la fitna, c'est plus grave que le meurtre. Le meurtre, je dis bien le meurtre, al qatl. Donc, c'est quelque chose qui les remplit d'épouvante. Et la fitna, c'est par exemple si une partie de la communauté se mettait à se convertir à une autre religion, ou par exemple, c'est l'apostasie aussi. La fitna constitue aussi une sorte d'apostasie, ou alors associer quelqu'un à Dieu, etc., l'associationnisme. J'ai répondu à la question de notre auditeur?
Oui, je pense que oui. Hein.
Voilà.
Même très bien. Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, l'Iran, c'est ça? Je crois, la seule république islamiste qui tolère le changement de sexe pour les hommes qui désirent devenir femmes. Est-ce que ce serait d'une certaine façon pour cacher un penchant pour l'homosexualité dans ce pays, tout à fait, tout en respectant, c'est ça, les écritures, que dit exactement le Coran sur l'homosexualité, Mme Delcambre?
C'est-à-dire que le Coran est très sévère en ce qui concerne l'homosexualité, mais c'est vrai que j'ai trouvé une image, je l'ai mise sur le site d'ailleurs, d'un imam, d'un mollah, un mollah iranien qui est en train d'embrasser à pleine bouche un jeune garçon.
Oh.
Mais parce que, je vous assure, j'ai mis l'image. Mais le problème, c'est que vous avez dans les récompenses du paradis de jeunes et faibles qui passeront. Et alors justement, il y a le shir Kesh qui a dit que il y aurait pour ceux qui aiment les filles. Et puis il y aurait aussi pour ceux qui aiment plutôt les jeunes garçons au paradis. Et alors il y a eu quelques personnes, quelques musulmans qui ont été choqués. Et alors l'université islamique de l'Azhar a dit pourquoi choquer ? Après tout, chacun sera récompensé suivant ses goûts. Eh oui. Parce que dans le Coran, dans les récompenses, vous avez des jeunes et faibles qui circuleront, parce que les gens sont là tranquillement en buvant, en mangeant pendant le paradis. Je parlerai un jour justement de ce qu'est le paradis, qui a fait dire à un pape que c'était un paradis pour bœufs et ânes, pour bœufs et ânes, parce que on mange, on boit, on copule tout le temps sur des femmes qui sont toujours vierges, et le pape a dit, mais alors où est-ce que ça va ça? Mais on mange, on va pas aux toilettes, c'est-à-dire qu'on peut à la fois manger, boire, etc., à volonté, avoir, toutes les filles qui automatiquement vous les consommez et elles redeviennent vierges. C'est génial ça, hein? Et c'est bien pour ça effectivement que les gens se font sauter le caisson. C'est-à-dire, c'est la récompense qui est promise aux martyrs. Il faudra qu'on en parle, parce que c'est très important. S'ils font tout ça, c'est dans le but de la récompense. Pourquoi ils tuent? Pour aller au paradis. Or, le problème de notre société, c'est qu'on ne croit plus au paradis ni à l'enfer. Un jour, j'en discutais avec mes étudiants, et ils ont dit, ah oui, nous on croit vraiment, c'est pour ça qu'on est, parfois on essaie de suivre bien l'islam à la lettre, parce qu'on veut aller au paradis. Mais si vous interrogez un jeune occidental, il s'en fiche, paradis, enfer, ça le fait doucement rigoler.
Oh, c'est n'importe quoi, là, franchement. Là. De toute manière, comment ça se fait que... Mais bon, je peux pas poser vraiment la question pourquoi que les musulmans croient encore au paradis.
Ben, c'est bien pour ça qu'ils font tout leur... Attendez, le problème des musulmans, c'est que ce qui les fait agir, c'est évidemment le problème, la perspective, mais ça a été comme ça aussi au Moyen-Âge chez nous, hein, les gens se tenaient tranquilles parce qu'on disait attention l'enfer. Et la description de l'enfer dans l'islam, elle est effrayante. Ce sera nar, nar, c'est du feu, vous aurez les vêtements seront du feu, on vous versera du plomb fondu dans... C'est effrayant les supplices de l'enfer. Autant le paradis, ce sera la fraîcheur, c'est vraiment un paradis pour bédouins à l'ombre, vous avez de l'ombre, vous avez de l'eau qui ne sera pas saumâtre, ça montre bien d'ailleurs, Jacqueline Chabie a très, c'est un chercheur, une femme chercheur, qui a très bien montré que la description du paradis, vous vous rendez compte quand on dit une eau pure et claire, ça veut donc dire, et du vin aussi, et des ruisseaux de lait, etc., ça montre bien que l'eau dans le désert, elle est souvent pleine de boue, vous voyez, elle est pas, l'eau qui est tirée du puits, elle est pas bonne. Là, ce sera une eau superbe, cristalline. En plus, vous aurez... Enfin, c'est une description, le rêve du bédouin, quoi. Tandis que l'enfer, ça sera un enfer, ben, un peu comme l'enfer quand vous avez en plein soleil et que vous grillez, ce sera effrayant. Un enfer, d'abord un enfer de, si je puis dire, pour bédouin, et puis ensuite, c'est là où on voit l'influence des convertis. Ça devient un enfer de feu, comme dans le judaïsme ou dans le christianisme. Un enfer qui est symbolisé par le feu.
Est-ce que...
Ça, moi aussi, ça me paraît tellement loin que... Alors, c'est vrai que moi, ce qui ne m'intéresse pas de savoir la transformation du paradis bédouin en un paradis qui ressemble beaucoup au judaïsme, au christianisme.
Exact, c'est ça.
Non, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes tels que les comprennent les musulmans. Parce que si ils doivent me faire sauter le caisson, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont dans la tête.
Est-ce que vous avez eu des menaces direct, là, pas par email, on s'entend, là, ou encore par, je sais pas, par coup de téléphone. Est-ce que vous avez eu un des menaces, soit par téléphone ou face à face? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Depuis que je suis sur Rockick?
Oui.
Aucune.
Ah, tiens donc.
Aucune. J'en avais une sur le site parce qu'il y avait quelqu'un qui était un peu disjoncté du citron parce que j'avais soutenu mes saouls courras.
Du citron.
Oui, ça veut dire dans sa tête, ça tourne pas, oh, ça tourne pas rond. Hein.
Je la trouvais sympathique comme expression, c'est tout.
Mais parce que j'avais soutenu, mais ça encourage. Mais sinon, sinon, c'est vrai que il y a eu quelques étudiants qui écoutent maintenant Rocky, qui sont allés sur le site.
Ah oui.
Et ils ont été choqués. Et j'ai dit, écoutez, c'est ça la France, c'est la liberté d'expression. Moi, je n'ai jamais menti. Je dis toutes les religions pour moi. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé, mais alors là, l'islam me paraît beaucoup plus dangereux, parce que la plupart des musulmans ne connaissent pas les textes, et qu'un jour, ça nous explosera tous à la tête. Vous serez en quelque sorte, vous les musulmans qui ne les connaissez pas, vous serez les premiers zigouillés, les juifs risquent beaucoup, et nous, les chrétiens, nous risquons. Et moi, je dis, c'est normal que je me défende et que je défende les miens. Et ils m'ont regardé stupéfait, et ils avaient l'air de penser que j'avais raison. Non, j'ai pas eu. Non, la preuve, je viens de faire passer il y a toute la semaine des examens d'arabe à tous ceux qui viennent de toutes les académies. Oh, non, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, je crois que la franchise paie.
Mais
ce
moi,
sont
madame,
pas des idiots.
Oui, madame Delcamp, moi, je sais pas. Cette semaine, je sais pas, Rocky.com, j'aime beaucoup Rocky.com. Bon, c'est pour ça que je suis ici du lundi au vendredi et que je discute avec vous. En ce moment, mais je sais pas pourquoi en ce moment j'ai l'impression que le message est très dur à faire passer, puis j'ai le goût de laisser tomber.
Tellement vous pensez que ça ne vaut pas la peine?
Ouais, je suis déçu un peu.
Parce que?
Je sais pas. Les gens nous pointent du doigt comme si on avait la peste bubonique, comme j'ai dit ce matin un peu, puis. Je sais pas, je commence à être déçu de l'être humain. Très déçu même.
Vous savez, vous voulez dire que les Canadiens, ça leur plaît pas?
Oui, et les Français aussi. Les Français aussi, je remarque un peu leur réaction, je les vois. Mais pas tous les Français quand même qui viennent écouter, mais il y en a que, je sais pas. Je sais pas quoi dire, Madame Delcombe. On est là, on se bat, on attaque à tous les matins, on arrive avec plein d'énergie. Des fois, j'ai l'impression que, et surtout aujourd'hui.
Attendez. C'est uniquement ce qui concerne l'islam.
Oui.
Alors, vous savez, moi, j'ai une solution. Puisqu'ils ne veulent pas comprendre, à ce moment-là, on arrête un peu. On arrête. Parce que si c'est vraiment, attention, le fait de ce qu'on fait, c'est pas quand même sans danger, hein. Moi, je dis, vous êtes au Canada, quelqu'un, on agit tous les deux sous notre nom, Bon, moi, mon nom, il est entièrement, effectivement, tout le monde peut le consulter, le vôtre aussi,
oui.
Le vôtre de Jonathan Bouchard.
Oui.
Bon, maintenant, si c'est pour nous qu'on ait des emmerdes et que ça ne fasse même pas évoluer ou changer les gens, ben tant pis pour eux. Moi, je vois pas pourquoi vous iriez risquer, à la limite, votre vie ou votre sécurité, etc., parce qu'il peut toujours avoir un imbécile disjoncté du front comme celui que j'avais eu. Bah, moi, je serais pas contre, hein, le fait qu'on leur a donné à peu près 10 ou 12 conférences. S'ils n'en ont pas tiré profit, bah, tant pis.
Je pense.
Non, moi,
j'ai l'impression, Mme Delcombe, je vais vous l'avouer, là, cash, je vous dis cash. Je pense que rockick.com en a assez fait.
Mais il va pas quand même arrêter comme radio.
Ben, pour moi, en tant qu'individu, là, pour moi, en tant qu'animateur, je le sais pas, j'ai réfléchi.
Ah, vous voulez dire que vous avez arrêté la radio?
J'y pense.
Mais pourquoi? C'est une super radio qui marchait bien, non?
Oui, ça marche bien. Il y a Jonathan Bouchard qui pourrait me remplacer pour continuer le relais. Moi, j'y pense.
Et vous iriez pour faire quoi, par exemple?
Je ne sais pas, Mme Delcombe. Je trouve que le message passe pas assez avec ma voix. Je sais pas. Peut-être que si on prenait, je sais pas moi, un mois et demi off.
Est-ce que vous avez reçu des menaces?
Non, du tout. Au compte. Ben quoi, peut-être une fois ou deux, quelques fois. Je pense, Jonathan, toi de ton côté, est-ce que t'en avais reçu des petits messages disant « Ouais, vous exagérez, Mme Delcombe a tort. » Non, pas du tout. Jonathan me fait signe que non, Mme Delcombe.
Mais vous savez, je vais vous dire, Ismaël, moi, si vous éprouvez cette sensation-là, moi, je crois qu'à ce moment-là, bon, on en a fait quand même beaucoup plus que... Je pense qu'on a fait ce... Vraiment, moi, on peut pas faire plus. On a essayé d'avertir. On a essayé de le mettre en arabe, en français, citer des passages. Vous savez qu'il y a un proverbe en français qui dit « il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ».
Effectivement.
Moi, je crois qu'il y a une sorte de... Comment dirais-je ? Les gens ne veulent pas voir parce qu'ils ne veulent pas, prendre conscience du danger. Eh bien, moi, je ne serais pas contre hein, d'arrêter. Pas du tout. Parce que je pense qu'à ce moment-là... Mais pas que vous arrêtiez la radio, attention. Mais que vous passiez, par exemple, à des interviews dans d'autres domaines.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je lâcherai pas, dans le fond. Je sais pas. Je vais quand même prendre un... Écoutez, on va continuer quand même à vous appeler le vendredi, d'accord?
Ben, faudrait peut-être... Non, pourquoi, par exemple, ne pas... Attendez. Moi, je pense que si vous sentez ça, faudrait peut-être quand même arrêter. Parce que, d'abord, parce qu'on vous laissera la paix. Et puis vous verrez la réaction. Moi, je ne suis pas contre, hein, loin de là.
Moi, madame, savez-vous ce que je vais vous dire honnêtement, là, comme ça, en onde, là, je vais vous dire, je vais vous appeler tout à l'heure, lorsqu'on va terminer, nous, notre show. Moi, je vais vous appeler, là, d'accord?
Oui.
Et on va regarder un plan. On va étudier ensemble, Madame Delcombe, un plan de match. Un plan de match pour frapper et cogner très fort.
C'est-à-dire que plus, voilà, bon, peut-être, comme vous dites, c'est-à-dire que moi, je suis, je partage, bon, je pense que si vous êtes un peu découragé, c'est qu'il y a des raisons. Donc, est-ce que les gens ne veulent pas avoir peur de... Vous avez vu David Chicot, un pauvre romancier qui essaie de t'amuse. Bon, ça fait monter au créneau l'Église catholique.
C'est ça.
Bon, il y a dans le Coran de quoi faire exploser, c'est inimaginable. Il y a la biographie du prophète, elle est maintenant traduite, elle est traduite par deux traducteurs, elle est traduite en français. Le Coran, il est traduit en français, et je vous assure que les traductions disent exactement ce que je dis.
Mot pour mot.
Les gens ne veulent pas lire comme ils ne voulaient pas lire Mein Kampf. Eh bien, laissez-les tomber, Ismaël, laissez-les tomber. Vous n'aurez que des ennuis et ils ne vous seront pas reconnaissants. Nous, on a fait vraiment plus. 12 conférences, c'est énorme. 12 ou 13, je ne sais plus, j'ai pas compté.
J'ai pas compté non plus. Parce que, savez-vous quoi, j'ai pas compté pour une simple et bonne raison, Mme Delcombe, parce que vous êtes intéressante.
Non, mais c'est gentil. Mais le problème, moi, j'ai pas envie du tout que vous soyez démolie. Vous avez quand même aussi votre vie. Vous n'allez pas quand même baigner, parce que vous aussi, dans le tourbillon de l'islam. Et moi, je dis, ça ne vaut pas la peine interroger, par exemple, les Chinois sur la culture chinoise ou d'autres choses. Mais je pense qu'avec les MP3 et tout, les gens qui veulent écouter, ils écoutent. Les gens qui ne veulent pas comprendre, ils ne comprennent pas. Que voulez-vous, on n'y peut rien. Hein?
Mais je pense que, Mme Delcan, je vais lancer un appel encore, une fois pour toutes. Vous êtes là le vendredi. Les gens apprécient beaucoup vous entendre. Vous entendre dire, justement, d'une certaine façon, la vérité. Je leur dis...
Oui, mais c'est contre moi. Écoutez-moi, je vais dire une chose, Ismaël. Oui, ça serait vrai.
Oui.
Les gens écoutaient, les gens pourraient, en quelque sorte, m'écouter. Mais il y a ce oui. dialogue islamo-chrétien qui fait barrage. Je vous promets, j'en suis venu à être anti-catho, sauf vraiment les cathos traditionnels, comme qu'on essaie d'ailleurs de ridiculiser, comme le père Samuel, le pauvre, qui, parce que vraiment, vous savez, le truc, qu'il soit un prêtre folklore, tout ce que vous voulez, ça c'est son problème. Il peut s'amuser à... Mais ce qu'on a fait le concernant, c'était le décrédibiliser, c'est-à-dire de dire tout ce qu'il pourra dire maintenant, regardez, c'est un charlot qui le dit, c'est quelqu'un... Mais je vous assure, mais attendez là, je me dis, mais... accusé de tout. Non, on l'a pas quand même accusé d'assassinat, ni d'avoir... Mais c'est inimaginable. Mais il y a des tas de guérisseurs en Belgique, il y a des tas de gens qui sont des escrocs. Et pourquoi se focaliser sur ce bonhomme ? Vous voyez, c'est ça qui me fait peur.
Ouais.
C'est-à-dire, tous ceux qui essaient de monter au créneau pour dénoncer ouais. l'islam, ils sont quelque part, on les sabre, on les empêche de parler.
Mais c'est parce que, vous voyez, Maurice Gédantec a décidé d'arrêter Mme Delcamp parce qu'il avait l'impression, et c'est drôle, c'est lui qui m'a mis d'une certaine façon la puce à l'oreille. Il avait l'impression que ça faisait plus d'une fois qu'il avait essayé de passer son message, puis il avait plus l'impression vraiment que ça rentrait. Je sais pas.
Non, parce que les gens ne veulent pas entendre un message. Je vous assure. Les gens ne veulent pas qu'on leur prêche, qu'on leur dise attention à du danger. Ils veulent continuer à faire leur petite vie. Ils ne veulent pas du tout être inquiétés, ni avoir à se mobiliser. Ils ne veulent pas. De même qu'ils ne voulaient pas lire Mein Kampf. Et je vous assure que c'est un peu pareil. S'ils avaient lu Mein Kampf, il y aurait eu vraiment, on aurait évité, parce que tout était programmé. Non, ils ne veulent pas être inquiétés. Ils ne veulent c'est pas ça. Prendre conscience. Il a raison, Dantec. Il a entièrement raison. Ce sont des veaux. Général de Gaulle parle... Non, je vous assure, c'est la vérité.
Oui, je vous crois.
Ce sont des veaux, et par conséquent, vous ne pouvez rien faire avec des veaux. Sauf les bouffer, mais...
Oui, il y a des chances, oui. Les bouffer, ça...
raison, Dantec. Il a raison parce que les gens sont ingrats. Les gens ne vous seront pas reconnaissants que vous, à chaque fois, vous allez dépenser à la fois votre énergie, votre temps. Non, 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 non. Non, moi, je suis d'accord avec Dantec. Moi, je suis d'accord, moi aussi. Hein. Moi aussi, je suis assez d'accord pour arrêter de passer vers la radio rocky.com, qui est maintenant connue par beaucoup de gens, mais pour autre chose, pour d'autres sujets.
Madame Delcamp, vous me permettez que je vous lâche un petit coup de fil en après-midi?
Oui, bien sûr.
Ben, on discutera.
Bien sûr.
Et sur ce, je vais devoir vous laisser.
D'accord.
Je vous souhaite un excellent week-end pour tout de suite.
Merci.
Et merci d'être encore venu discuter de ce sujet qui mérite, je pense, d'être discuté plus d'une fois. Et je pense qu'un vendredi seulement par semaine, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais on dirait que les gens, ils ont besoin de temps à autre de se faire brûler un peu au fer rouge pour qu'ils réagissent.
Mais les gens qui écoutent sont des gens déjà convaincus. Mais ouais. Les autres écouteront-ils? Je ne sais pas.
Je pense que c'est à ces gens-là de les convaincre.
Oui, c'est ouais. Bon, ben de toute façon, merci. On a quand même pu lancer des idées, on ne sait pas. Ça,
exactement.
Ça va circuler.
Merci, Mme voilà. Delcamp.
Merci quand même, Ismaël. Hein.
Au revoir, Mme Delcamp.
Ah
oh, oui, c'est
J'ai bien aimé être à vous avoir comme animateur.
Merci beaucoup, Mme Delcamp. Très gentil de votre part. Je vous embrasse fort.
Je vous en prie.
Bye bye.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je vais lire les commentaires quand t'arrives.
S'il te plaît, Jonathan.
Oui. Mais non, les gars, c'est normal que vous êtes sur une radio. C'est pas en direct, en face des gens. On voit pas les effets directs. Faut prendre un peu de recul.
Eh bien, je suis Maurice Gédantec. Et j'écoute rockkick.com.
Pour émettre un commentaire ou joindre les animateurs en onde, c'est simple.
Allô? Allô?
Ouais.
pense que ça irait plus vite par MSN. Live@rocket.com, la meilleure façon de nous joindre en tout temps.